Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1817 puis profondément remanié en 1821, Des principes de économie politique et de impôts est le grand traité de David Ricardo, figure majeure de l'économie classique britannique. Cet ouvrage de théorie économique examine les forces qui déterminent la valeur des marchandises et surtout la répartition du revenu entre propriétaires fonciers, travailleurs et détenteurs de capital. Ricardo ne propose pas une simple description des marchés. Il construit un ensemble de mécanismes reliant production agricole, salaire, rente, profit, commerce extérieur, monnaie et fiscalité. Son objectif est aussi politique, éclairer les controverses anglaises relatives aux lois sur les céréales, à la dette de guerre et aux effets du progrès technique. La prose est dense et le raisonnement souvent abstrait, car Ricardo isole des relations générales à partir de nombreuses hypothèses. Malgré les limites historiques de certaines prémices, le livre demeure essentiel pour comprendre les origines de la théorie de la valeur, du libre-échange et de la distribution dans la pensée économique moderne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la valeur relative repose sur les conditions de production plutôt que sur utilité. Ricardo distingue nettement utilité et valeur échangeable. Une chose doit être utile pour être demandée, mais son utilité ne fournit pas à elle seule une mesure de son prix relatif. Pour les biens qui peuvent être reproduits, Ricardo rattache principalement la valeur à la quantité de travail nécessaire à leur production, y compris le travail contenu dans les outils, les matières et les équipements employés. Cette thèse vise à expliquer pourquoi deux marchandises utiles peuvent se vendre selon des proportions très différentes. Elle permet aussi de déplacer l'analyse vers les coûts et les techniques de production. Ricardo reconnaît toutefois que la rareté joue un rôle décisif pour des objets non reproductibles, tels que certaines œuvres ou productions exceptionnelles. Son raisonnement ne réduit donc pas toute valeur à un même cas sans réserve. Il étudie également les difficultés internes de cette théorie des capitaux ayant des durées de vie différentes ou des structures de production plus ou moins longues. Peuvent modifier les prix relatifs, même si les salaires varient de façon uniforme. Cette attention aux complications rend le texte plus rigoureux qu'une formule sommaire sur le travail. La théorie reste historiquement contestée, notamment par les approches fondées sur utilité marginale, mais elle organise toute la recherche ricardienne sur salaire, profit et prix naturel. Deuxièmement, rente foncière et céréales, une explication distributive de la hausse des coûts. La théorie de la rente constitue le noyau de l'analyse ricardienne de la répartition. Lorsque la population augmente, une société doit, selon Ricardo, mettre en culture des terres moins fertiles ou recourir à des méthodes plus coûteuses. Le prix des produits agricoles tend alors à être déterminé par les conditions de production sur la terre, la moins avantageuse encore nécessaire pour satisfaire la demande. Les terres plus fertiles procurent à leurs propriétaires un surplus à la rente. Celles-ci ne forment pas, dans cette logique, un coût qui déterminerait le prix du blé. Elle est plutôt une conséquence du prix nécessaire pour cultiver les terres marginales. Cette inversion est centrale dans la critique ricardienne des restrictions sur importation de céréales. Des denrées plus chères accroissent le coût de subsistance des travailleurs, exercent une pression sur les salaires monétaires et réduisent ainsi la part disponible pour les profits. La rente peut donc progresser alors que les profits se contractent. Ricardo transforme un débat agricole concret en théorie des conflits de répartition entre trois revenus salaires, profits et rente. Son modèle dépend de hypothèses fortes sur la terre et la subsistance. Mais il met durablement en évidence la manière dont une ressource limitée peut redistribuer les gains de la croissance. Troisièmement, la baisse tendancielle des profits conduit au risque de état stationnaire. Ricardo relie la dynamique de accumulation du capital aux contraintes agricoles. Les profits encouragent investissement, lequel élargit la production et soutient emploi. Mais une population plus nombreuse accroît aussi les besoins alimentaires. Si les rendements agricoles diminuent à mesure que la culture gagne des terres moins productives, le coût des subsistances augmente. Les salaires nécessaires au maintien des travailleurs tendent alors à monter, tandis que les propriétaires tirent une rente supérieure de la différence entre terres. Comme le profit est la part résiduelle après salaire et rente, il se réduit. Ricardo en déduit une tendance vers un état stationnaire, situation dans laquelle les profits deviennent trop faibles pour stimuler une accumulation nette durable. Cette perspective ne signifie pas que tout mouvement économique cesse soudainement. Elle décrit une pression structurelle susceptible de ralentir investissement et croissance. Le livre attribue donc une importance majeure aux moyens capables de retarder ce résultat amélioration des techniques. Importation de denrées à moindre coût et réduction des obstacles au commerce. Cette vision contraste avec les récits qui assimilent mécaniquement industrialisation et prospérité indéfinie. Elle repose sur des conditions propres à l'économie britannique de son temps, en particulier la place du blé dans le budget des ménages. Mais elle conserve un intérêt analytique, elle montre comment la croissance peut rencontrer des limites distributives et matérielles, même sans crise financière immédiate. Quatrièmement, le commerce extérieur repose sur avantages comparatifs et non sur supériorité absolue. Dans son chapitre célèbre sur le commerce extérieur, Ricardo expose le principe selon lequel deux pays peuvent gagner à échanger même si un seul est plus productif dans toutes les productions. Ce qui importe est le coût comparatif, autrement dit ce que chaque production oblige à abandonner dans chaque pays. Un pays possède intérêt à concentrer davantage ses ressources là où son désavantage est le plus faible ou son avantage relatif le plus fort, puis à importer le reste. Ricardo conteste ainsi l'idée selon laquelle le commerce ne profiterait qu'au pays le plus efficace. Le mécanisme suppose que la spécialisation permette une production totale plus élevée et que les termes de échange rendent ce surplus partageable. Dans le cadre de son analyse, importer du blé moins coûteux possède aussi un effet intérieur, cela peut contenir les salaires de subsistance et préserver les profits, donc accumulation. La défense du libre-échange ne relève par conséquent pas seulement d'une maxime morale ou diplomatique, elle découle de sa théorie de la distribution. Il faut néanmoins lire ce raisonnement avec ses hypothèses mobilité limitée du capital entre pays. Concurrence relativement simple et attention réduite aux ajustements sociaux de court terme. Les débats contemporains sur dépendance productive, écart de pouvoir ou effets régionaux ne sont pas résolus par le modèle. Sa force durable réside dans la démonstration logique que efficacité absolue et intérêt mutuel ne sont pas équivalents. En dernier lieu, fiscalité. Monnaie et machine, les politiques modifient la part des revenus. Ricardo traite impôts comme une question de répartition plutôt que comme une simple source de recettes publiques. Il cherche à identifier la classe qui supporte réellement une taxe après les ajustements de prix, de salaire et de profit. Ainsi, une mesure qui renchérit durablement la subsistance des travailleurs peut relever les salaires monétaires et peser finalement sur les profits. De même, selon son analyse, une taxe foncière ne possède pas nécessairement les mêmes effets qu'une taxe sur les bénéfices ou sur la consommation. Cette méthode invite à distinguer le contribuable apparent de la charge économique finale. Sur la monnaie, Ricardo défend la convertibilité et la discipline associée au métal, car il redoute les variations de la valeur monétaire et les émissions excessives. Son attachement à étalon or appartient à un contexte institutionnel précis et ne fournit pas une réponse automatique au système monétaire actuel. La dernière édition ajoute aussi un chapitre important sur les machines. Ricardo y admet que le progrès technique, bien que favorable à la production globale et potentiellement au profit, peut dans certaines circonstances nuire temporairement aux travailleurs en réduisant la demande de travail. Cette concession est notable, elle empêche de présenter le livre comme une défense sans nuance du machinisme. Elle révèle une préoccupation constante pour les effets distributifs concrets des politiques et des innovations. En conclusion, des principes de économie politique et de impôts convient avant tout aux étudiants en économie, histoire des idées et sciences politiques, ainsi qu'aux lecteurs qui veulent remonter aux sources des notions de rente, avantages comparatifs et répartition des revenus. Il exige une lecture lente, Ricardo formule ses démonstrations au moyen de cas stylisés, reprend certaines distinctions et travaille avec des hypothèses qui ne correspondent pas directement aux économies contemporaines. Cet effort apporte toutefois un bénéfice intellectuel précis. Le lecteur apprend à suivre les chaînes causales entre techniques, prix agricole, salaire, profit, fiscalité et accumulation, au lieu de traiter ces variables séparément. Le livre est également utile pour évaluer avec plus de précision les usages actuels du mot ricardien, souvent réduit au seul commerce international. Sa singularité parmi les classiques de l'économie politique tient à une volonté de systématisation particulièrement ferme. Là où Adam Smith offre une analyse plus vaste des institutions, de la division du travail et des sentiments moraux, Ricardo concentre le regard sur la distribution et sur les conséquences de variations de coûts. Face aux manuels modernes, il ne fournit ni données empiriques récentes ni modèles formalisés, mais il rend visibles les choix conceptuels qui structurent encore les débats. Ses conclusions sur le libre-échange, la monnaie ou les salaires ne doivent pas être adoptées sans examen. Sa valeur durable réside dans la rigueur de ces problèmes qui reçoit le revenu produit, pourquoi cette part change, et quelle politique déplace réellement la charge entre groupes sociaux. Si vous souhaitez soutenir David Ricardo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.